Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir le professeur Colm, Jean-Christophe Colm. Monsieur le professeur, vous êtes né le 14 décembre 1932 à Paris. Vous êtes diplômé de l'École polytechnique, de l'École des ponts et chaussées. Vous êtes ancien directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, directeur du Centre d'enseignement et de recherche en analyse socio-économique. Enfin, vous avez été professeur d'économie de 67 à 72 à l'Université de Stanford, de 63 à 76 à 67, pardonnez-moi, professeur d'économie à l'Université de Harvard. Vous êtes également l'auteur de centaines d'articles scientifiques et également auteur de plusieurs ouvrages sur les thèmes de l'économie normative, l'économie publique, l'économie et l'altruisme de la réciprocité, la macroéconomie, la politique macroéconomique, le chômage et l'inflation, l'économie monétaire et bien d'autres, la théorie de l'homme, psychologie, philosophie orientale. Donc nous laissons la parole ce soir à monsieur Jean-Christophe Colm, qui vient malgré des problèmes liés à sa corde vocale, puisqu'il était aphone ce matin, il nous fait le plaisir quand même de venir. Donc nous vous remercions d'autant plus, monsieur Colm, de dispenser cette conférence.
Bon, je vais... Bon, tout d'abord, je ne suis pas sûr du tout de pouvoir parler comme vous l'entendez, je m'en excuse. Ça m'arrive comme tout le monde une fois tous les 10 ans et ça tombe justement aujourd'hui. Je vais essayer de commencer et si je ne peux pas, Madame Julie Navarro continuera en lisant le texte qu'elle a à ma place et je la remercie à l'avance et je vous prie de m'excuser beaucoup de cet inconvénient. Le sujet dont l'Université de tous les savoirs m'a demandé de parler ce soir est l'économie comme science et comme politique. J'ai été très intéressé de savoir que ceci était un 366e de tous les savoirs, et en tout cas, j'ai accepté. L'économie en français désigne à la fois un objet et son étude scientifique. L'économie en tant qu'objet ne nous lâche guère. Quand nous n'y peinons pas comme travailleurs, nous en jouissons en tant que consommateurs. En fait, presque tout est à la fois économique et autre chose. C'est dire que l'objet, économie, n'est pas vraiment un objet, mais un aspect des choses, une façon de voir le monde, une optique ou un point de vue. C'est le monde perçu et mu par notre désir et notre besoin en général. Il faut dire que ce n'est peut-être pas l'aspect le plus beau et le plus intéressant du monde. Comme on le sait, les choses les plus importantes n'ont pas de prix. L'amour, la dignité, la générosité et l'honneur cessent d'exister s'ils sont achetés et vendus. L'économiste, dit-on, connaît le prix de chaque chose et la valeur d'aucune. Cependant, on ne peut guère se passer de l'économie, il faut bien manger quelque chose et s'asseoir quelque part. En tant que connaissance scientifique, l'économie s'appelle aussi science économique, parfois l'économique et autrefois économie politique. Cette discipline est elle-même, dans la vie économique, un secteur contracyclique. La science économique se porte bien quand l'économie va mal, parce qu'on a alors besoin d'elle. Mais c'est aussi un domaine très décrié, dénoncé par les anti-économistes, souvent complices de l'horreur économique, comme disait Rimbaud, singeant la physique sans faire d'expérience, où n'importe quelle explication ne peut jamais être prouvée fausse et peut toujours être justifiée a posteriori si l'on a l'habileté nécessaire, et où les théories, donc, sont bien souvent les oripeaux des idéologies ou les feuilles de vigne des intérêts, ou bien, au mieux, de l'art pour l'art ciselé dans des tours d'ivoire où l'on met en équation toute la misère du monde. D'autres, il est vrai, voient aussi l'économie comme la reine des sciences sociales et la plus scientifique des connaissances élaborées de la société. Eh bien, il est possible que tout cela soit vrai à la fois. En tout cas, si on cherche de l'information et de la réflexion sur la vie économique, c'est quand même dans ce magasin qu'on la trouve, passé les théories qui peuvent être douteuses, boiteuses, creuses, purement esthétiques, poétiques ou mathématiques, et parfois stériles et parfois aussi hypocrites. Et en tout cas, cette quantité d'informations sur les faits et mécanismes est assez grandiose et elle croît sans cesse. Enfin, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez devenir économiste, ajouter votre propre pierre, choisir les sujets importants, remplacer l'idéologie par de la vraie morale et contourner les pièges de la connaissance par votre intelligence du sujet. Les succès économiques de la vie économique tiennent essentiellement à la division du travail coordonnée par les échanges des marchés. Mais l'un des acteurs de la société est particulier par sa taille, son rôle et ses moyens. C'est l'État, détenteur du pouvoir de coercition normalement dominant et en démocratie représentant l'ensemble de la société. Mais les plaintes sempiternelles contre l'État prédateur, trop d'impôts, explosèrent en une idée force de première importance à l'aube de l'ère industrielle. Les marchés marcheraient mieux laissés à eux-mêmes, ils satisferaient au mieux nos besoins comme par une main invisible, comme dit Adam Smith, et la main trop visible de l'État ne peut mieux faire que de ne pas y toucher. C'est le libéralisme économique, laisser faire, laisser passer. Et en effet, les marchés produisent des miracles économiques en cascade. Ils créent le monde moderne. Les revenus nationaux de nos pays sont multipliés par 10 en un siècle, par 100 en deux siècles. Et à mi-chemin entre le début de la révolution industrielle à nos jours, à la fin du 19e siècle, l'État en Europe se contente d'assurer la police, l'armée, la diplomatie et un minimum d'assistance que les églises oublient, avec quelque 6% du revenu national en Angleterre et le double en France. Toutefois, actuellement, l'État mange à peu près 46% du revenu national et l'ordre de grandeur est comparable ailleurs. Au cours du XXe siècle, le poids relatif de l'État dans l'économie a été multiplié par 4 et le volume de l'État français a été multiplié par 40. Que s'est-il donc passé? La première évidence est que l'admirable système des marchés laisse aussi parfois pour compte ou écrase des pans entiers des besoins de la population et de l'être humain. Le miracle marchand et industriel traîne aussi la misère, le chômage, l'injustice, la pollution, la laideur environnementale, l'égoïsme, l'aliénation, l'hostilité, l'effacement de culture et de civilisation. Cela fournit autant de candidats à d'autres manières de faire que les marchés, à la pertinence d'autres morales et a priori à la politique économique publique. Ces échecs des marchés, comme on dit, se classent en quelques catégories que l'on peut regarder d'un peu plus près. D'une part, le marché ne peut pas produire certains biens. Par exemple, on ne peut pas mettre de barrières de péage à toutes les rues d'une ville pour financer ces rues par un système de marché. Le marché peut avoir des maladies globales, comme celles que provoquent le chômage important et généralisé et l'inflation. Comme disait l'économiste John Robinson, la main invisible peut agir par strangulation. Nous reviendrons sur cette question. D'autre part, le marché peut tout à fait fonctionner avec certaines personnes mourant de faim. Ce sont les personnes dont les capacités ne trouvent pas preneur sur le marché. Plus généralement, le marché lui-même ne résout pas le problème de la justice distributive, c'est-à-dire de la distribution entre les personnes des ressources du monde. En 1848 déjà, l'économiste et philosophe anglais John Stuart Mill écrivait « Le problème n'est plus de produire davantage, mais de bien distribuer ce que l'on produit. » Ces trois problèmes du marché que je viens de mentionner justifient les trois fonctions économiques de l'État et de sa politique économique. L'allocation pour les défauts de détail, la stabilisation pour les déséquilibres globaux que sont le chômage profond et l'inflation, et la distribution pour la justice distributive. Mais le système des marchés suscite aussi d'autres problèmes dont le remède relève plutôt de la morale et de la vue du monde de la société en général que du rôle coercitif de l'État. Ce sont les suivants. Le système des marchés est fondé sur des comportements égoïstes. Adam Smith insistait sur le fait que la force du marché est précisément de s'appuyer sur cette attitude si répandue. Si vous voulez obtenir du pain de votre boulanger, disait-il, comptez sur son intérêt égoïste dans l'échange plutôt que sur sa générosité. Cette vertu publique des vices privés, comme avait dit Mandeville dans la fable des abeilles, avait été remarquée depuis longtemps. Au IVe siècle déjà, les pères de l'Église avaient débattu de savoir s'il fallait excommunier les entrepreneurs et les marchands dont le comportement semblait si contraire à la charité chrétienne. Mais ils avaient conclu par la négative, parce que ces égoïstes rendaient en fin de compte service aux autres. Bien sûr, les ascensions seraient jugées plus tard et par plus compétents. Toutefois, le marché récompense le comportement égoïste et donc renforce le sentiment égoïste. Certes, il est théoriquement possible d'être égoïste dans son métier et de donner ses bénéfices aux pauvres, ce que l'économiste et clergyman anglais Wicksteed appelle le non-tuisme, mais c'est au risque de tomber dans la schizophrénie. Plus généralement, le gouvernement français a récemment trouvé une belle formule en disant qu'il veut une économie de marché et non une société de marché. Et en effet, le système marchand, s'il prend trop de place dans la vie, suscite une série de problèmes. L'égoïsme, déjà noté dans le système de concurrence, qui est une condition de l'efficacité des marchés, tend à susciter des relations sociales hostiles et agressives, la dissimulation ou l'hypocrisie. La forte spécialisation et la division du travail, permis par les échanges et clés de la productivité sociale, encore de l'Adam Smith, font que l'on ne voit pas directement à quoi sert son propre travail. C'est un aspect de ce que Marx appelle l'aliénation et conduit souvent à des tâches répétitives et abrutissantes. La réussite dans un cadre concurrentiel demande souvent de l'obsession détournant d'activités sociales ou culturelles plus riches et plus humaines. Hâtons-nous d'ajouter que l'organisation administrative, bureaucratique et hiérarchique peut n'être pas meilleure et même être pire sur les plans que je viens d'indiquer. La voie là consiste à trouver la bonne organisation associant réciprocité et efficacité, individualisme et communauté, expertise et plénitude. La connaissance économique, donc, doit non seulement comprendre le fonctionnement des marchés et le juste rôle de l'État, mais aussi s'occuper de la morale de la distribution et de celle des relations sociales et de l'activité humaine. Selon les termes institutionnalisés, l'économique, sous peine de peu comprendre et de mal conseiller, ne peut qu'être pleinement une science morale et politique, une science sociale et une science humaine. Cependant, le cœur de cette discipline est constitué par l'histoire des relations entre la connaissance, la politique et la performance économique. L'économie, avons-nous vu, ne nous lâche pas d'un cheveu. Quand nous ne la produisons pas, nous la consommons. C'est plus un aspect de la vie qu'un fait à part. Or, tout être humain plongé dans un environnement cherche à le comprendre pour y agir au mieux. L'économie ne fait pas exception. Mais il est assez stupéfiant de voir à quel point les concepts nécessaires sont arrivés tardivement. À y regarder de plus près, cependant, on voit que cette conceptualisation a suivi le cours général de l'histoire des sciences, avec un retard dû au fait qu'il s'agissait d'une activité humaine et sociale sur laquelle on fait de nombreuses observations, mais pas d'expériences. Pendant longtemps, économie a signifié gestion domestique, comme son nom l'indique. Au XVIIIe siècle, les physiocrates ont eu une notion claire des interdépendances entre les secteurs et les flux correspondants. Mais le fait révélateur est la question cruciale de l'explication des prix et des quantités échangées sur les marchés. Le prix d'un bien était expliqué par le rapport entre une quantité offerte et la somme d'argent qui le demande, ce qui est une tautologie et non une explication. Sauf au niveau global, pour expliquer le niveau général des prix par la théorie quantitative de la monnaie qui était ainsi en place dès le XVIe siècle. Bien que tout vendeur ait su depuis toujours qu'il avait en général plus de clients quand il baissait ses prix, il a fallu attendre 1838 pour que soit précisément décrite une courbe de demande montrant la quantité offerte en fonction du prix. Et cela a été fait par Augustin Cournot en construisant la théorie du monopole pour déterminer le prix de vente de l'eau de la source Perrier. La théorie de l'offre et de la demande, de la concurrence et de l'interdépendance des marchés a dû attendre une génération de plus avec Léon Valras, dont le père avait été condisciple de Cournot. L'un des acteurs intéressés par l'économie était le pouvoir politique. Le produit des impôts en dépendait, mais également, souvenons-nous qu'Henri IV s'est aussi soucié de ce que les Français mijotaient dans leur casserole le dimanche. En tout cas, comme je l'ai noté, l'État était dans le domaine de l'économie à son plus bas au tournant des 19e et 20e siècles, avec une part dans le revenu national autour de 10% dans les pays européens, bien moins en excluant les armées et en Angleterre, et nous avons appris récemment qu'elle dépassait 46%. En France, un siècle plus tard, sécurité sociale incluse. Pourquoi ce bond alors que le produit national lui-même a été décuplé, ce qui multiplie par 10 le volume de l'État. Les trois fonctions économiques de l'État, que l'on a précisées tout à l'heure, ont contribué à cette explosion. Il s'y ajoute cependant une loi sociologico-politique. Si les dépenses et donc les recettes publiques augmentent pour une certaine raison, lorsque cette raison est passée, les fonds économisés tendent plus à être utilisés à autre chose qu'à se traduire par des baisses d'impôts. C'est ce qu'on appelle l'effet cliquet. Il s'explique, par ce que l'on peut apercevoir de nos jours, à savoir que la concurrence politique étant une concurrence pour avoir le pouvoir de gérer les dépenses publiques, aucun des candidats n'est vraiment tenté de baisser sérieusement celles-ci. Les plus grosses sources d'effets cliquets ont été les guerres, notamment les deux guerres mondiales. Les dépenses militaires font partie de la fonction d'allocation de l'État. Mais après les guerres et les reconstructions, les nouvelles recettes ont été transférées à autre chose plutôt que supprimées, et c'est la redistribution qui en a le plus bénéficié. En ce sens, une certaine justice distributive est sortie des guerres qui ont ainsi fait réaliser une fraction de révolution. Cependant, sur le plan des relations entre la connaissance, la politique et la performance économique, la novation est venue de la troisième fonction, la stabilisation, et de l'autre événement majeur de la première moitié du XXe siècle, la crise économique, commencée en 1929. Celle-ci a en effet suscité la recherche de John Maynard Keynes, dont la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, parue en 1936, allait lancer l'usage systématique de la politique macroéconomique de stabilisation. Cet usage ne s'est cependant établi que bien plus tard, pour deux raisons. Tout d'abord, la préparation de la Seconde Guerre mondiale mit fin à cette crise en pratiquant de fait, mais pour une autre raison, une politique de relance keynésienne par la demande. Par ailleurs, une loi empirique dit qu'il faut une génération de 25 à 30 ans pour qu'une proposition importante de politique économique commence à être mise en application. En tout cas, après la Seconde Guerre mondiale, les économies européennes, tirées par la reconstruction, fonctionnent en suremploi, en ce sens que non seulement elles n'ont pas de chômage notable, mais elles importent même de la main-d'œuvre de leurs campagnes et de régions plus pauvres. Elles pratiquent d'ailleurs, en cas de besoin, quelques relances sans théorie élaborée. Aux États-Unis, par contre, qui n'ont que quelques retards d'entretien quand arrive la démobilisation, il y a un sous-emploi important avec des idéologies républicaines qui auraient répugné à une relance par le déficit public. Les professeurs d'économie, eux, ont mis 10 à 20 ans à comprendre Keynes. L'un de ceux-ci, Paul Samuelson, du Massachusetts Institute of Technology, se trouve en 1961 à bord du yacht des Kennedy au large de Hyannisport, et il explique le keynésianisme élémentaire au candidat à la Maison-Blanche, qui est très réticent parce que les démocrates étant couramment accusés de laxisme fiscal, il tient d'autant plus à la rigueur budgétaire classique. Nous retrouverons ça tout à l'heure dans le cas de la France. Le résultat est cependant la baisse d'impôts Kennedy-Johnson de 1962-1963. L'économie américaine fait un bond en avant, le chômage diminue nettement. Pour les économistes, c'est une expérience cruciale. Keynes marche. Ce qu'ils enseignaient à leurs étudiants était donc vrai. Heureuse surprise, car ils n'en étaient pas sûrs. Mais cette relance se télescope avec la demande pour la guerre au Vietnam et dépasse la marque. Et l'inflation, très faible aux États-Unis depuis la guerre de Corée, emboîte vite le pas. Jusque-là, l'inflation européenne avait été compensée par la stabilité des prix américains dans le système de taux de change fixe de Bretton Woods, établi après la Seconde Guerre mondiale à l'instigation du même Keynes. Mais vers le milieu des années 60, l'ensemble du monde nord-atlantique entre en plein emploi et en inflation. S'y ouvre alors une décennie d'une étrange dynamique entraînée par ce qu'on appelle le cycle politique. Celui-ci, appelé aussi stop and go, est bien connu. Puisque Keynes marche, les gouvernements sont fortement tentés d'utiliser sa politique à fin électorale. Les électeurs n'aiment pas un certain nombre de choses. Ils n'aiment pas le chômage, la stagnation, l'inflation, pour la plupart d'entre eux. Non, attendez, je le mettrai. L'inflation, les impôts, évidemment. Mais par contre, ils aiment l'emploi, la croissance et les dépenses publiques. D'autre part, la hausse des prix est poussée par le presque plein emploi, puisque l'on surenchérit pour acheter les biens et services rares, et la hausse des prix est freinée par la faible demande, avec un délai. Dans cette optique, si vous voulez, un chômeur est quelqu'un qui travaille à tirer le taux d'inflation vers le bas. On fait donc une stabilisation, c'est-à-dire une faible dépense publique et hausse d'impôts après les élections. Alors là, je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Donc voici un diagramme. Ici est porté le chômage, ici est porté l'inflation. à un certain moment, les élections sont passées, vous voyez que l'on a peu de chômage, mais que l'inflation augmente. On va, l'économie va décrire ce cycle-là, qui est dû, sa forme est due au retard que j'indiquais. L'emploi et le chômage vont dans un sens ou dans l'autre, et après, avec un certain délai, ils ont un effet sur la hausse des prix. À cet endroit-là, on fait une politique de stabilisation. Le chômage augmente. Et au bout d'un certain temps, ça commence à faire baisser le taux d'inflation. À ce moment-là, les gens, il y a un haut taux de chômage, on fait une relance. Cette relance fait diminuer le chômage. Et on arrive ici à ce point-là où le chômage est bas, mais où l'inflation n'a pas encore commencé à monter. C'est-à-dire que c'est le meilleur moment pour avoir une élection. Et comme les électeurs ont une mémoire ou avaient à l'époque une mémoire qui n'excédait pas 6 mois, ils ne se souviennent pas de ce qui s'est passé par ici, mais ils se souviennent là et ils sont particulièrement heureux parce que le chômage a baissé et que l'inflation est encore basse. Et le gouvernement est réélu. Cependant, quelque chose se passe, c'est que il y a un certain délai qui sont les délais électoraux. Si on avait le temps, je détaillerais ça selon chaque pays. Les lois électorales varient selon chaque pays. Mais au total, on n'a pas le temps de revenir au moment de la stabilisation jusqu'à ce que l'inflation soit suffisamment basse. On est forcé de relancer un peu plus tôt pour être en bonne position au moment des élections. Et au total, le cycle n'est pas comme ça. Le cycle n'est pas comme ça. Si vous voulez, à cet endroit-là, on est forcé de le faire ici et ça remonte et ça monte de plus en plus. C'est-à-dire que le cycle monte de plus en plus haut. Le cycle glisse vers le haut. Et à un certain moment, l'inflation devient tellement forte que l'on est forcé de faire une stabilisation extrêmement puissante. Et ceci arrive en 1900 par les déflations qui ont lieu en 1974. Donc vous voyez, ça décrit ce qui se passe par application des idées de Keynes dans la décennie cruciale où le monde nord-atlantique est proche du plein emploi et en inflation du milieu des années 60 au milieu des années 70. Ce phénomène est accentué par les effets internationaux. Après la Seconde Guerre mondiale, les cycles économiques sont en opposition, car outre les hauts niveaux ou bas niveaux, à l'intérieur, il y a des cycles économiques. Les cycles économiques sont en opposition entre l'Europe et les États-Unis. À partir du milieu des années 60, ils se mettent de plus en plus en phase, jusqu'à créer un phénomène mondial de résonance, accentuant de 30% les pointes et les crues. Et les stabilisations initiant la crise de 1974 sont presque simultanées. Je n'ai pas le temps ici de dire pourquoi il y a eu cette synchronisation, mais c'est assez clair et ça s'explique bien. Cette dynamique est aussi liée à l'évolution du système monétaire international comme cause et comme effet. Entre les deux rives de l'Atlantique, les principaux effets sont ceux des flux financiers. Et de même que le principal problème d'une inflation nationale est que les prix croissent à des rythmes différents, une inflation mondiale accroît les différences d'inflation entre les pays. Le système de taux de change fixe de Bretton Woods ne peut plus tenir, mais s'il ne tient plus, il ne force plus les pays à forte inflation à stabiliser pour limiter leur déficit extérieur, ce qui freinait également l'inflation. Au même moment, les idées des économistes, que l'on a déjà vues à l'œuvre par l'intermédiaire de M. Keynes et des gens qui l'ont étudié, interviennent. Les théoriciens du système international le font de deux façons. M. Milton Friedman explique que le régime des taux de change flottants, c'est-à-dire déterminé par les marchés, est le meilleur. Des économistes de l'université de Stanford en Californie, de leur côté, expliquent que le système existant, qui est en théorie un étalon or, est en réalité un étalon dollar. En conséquence, pour éviter de devoir s'imposer une stabilisation et du chômage pour défendre le dollar, les États-Unis coupent le lien entre le dollar et l'or. Les dévaluations des grandes monnaies se succèdent alors et les changes deviennent pratiquement flottants en 1973. Donc, en 1974, les grands pays font une stabilisation forte à peu près ensemble. Cela entraîne la crise économique mondiale et la fin de ce que l'on a appelé les 30 glorieuses années de forte croissance suivant la Seconde Guerre mondiale. Notons que la hausse du prix du pétrole ne joue dans cet événement qu'un rôle secondaire et endogène. Le choc pétrolier est beaucoup moins fort que le choc déflationniste des politiques de stabilisation. Et les grandes compagnies pétrolières ont profité de l'inflation pour laisser le prix du pétrole baisser par rapport aux autres en l'augmentant moins, de façon à inciter les consommateurs à s'équiper pour utiliser l'énergie pétrolière plutôt qu'une autre énergie, ce qui permet à la hausse ultérieure brutale des prix de rapporter un maximum de profit. La suite de l'histoire économique du monde développée est une longue période de chômage élevé pour sortir de l'inflation, avec la reconstruction d'une zone de taux de change fixe, puis de monnaie unique en Europe, et enfin la reprise de la croissance soutenue en Amérique du Nord, puis en Europe. La situation actuelle, cependant, est grosse d'un risque majeur que les leçons de l'histoire peuvent aider à percevoir. Dans les années 1950, l'Europe était en plein emploi, et l'inflation mondiale était contenue par la stabilité des prix américains grâce au large sous-emploi de ce pays. À l'aube du XXIe siècle, les États-Unis sont en presque plein emploi, mais l'Europe est en large sous-emploi et inflation maîtrisée. La symétrie de la situation s'explique par une théorie qui montre que la charge de la stabilisation mondiale se concentre sur le plus gros des pays. Dans les années 50, c'était les États-Unis. Dans les années 90, l'unification monétaire de l'Europe est intervenue et en conséquence, celle-ci se comporte de fait comme un seul pays. Ce dernier surpasse en taille les États-Unis et la charge de la stabilisation se reporte sur l'Europe. Si maintenant le chômage diminue suffisamment, maintenant, de nos jours, l'année prochaine, le chômage diminue suffisamment en Europe, l'ensemble du monde arrivera au presque plein emploi et l'inflation mondiale risque de ressurgir comme au milieu des années 60. Le premier effet serait l'écroulement des bourses que la fin de l'inflation mondiale actuellement dope extraordinairement. Cela entraînerait la chute de la consommation des ménages et de la source de fonds des entreprises et une crise d'ensemble à laquelle on peut préférer ne pas penser. La question du jour est donc, combien doit-on garder de chômeurs en Europe pour ne pas aller jusque-là? Une conclusion de cette histoire est qu'avec l'avènement de la politique macroéconomique, la pensée économique devient un facteur majeur du destin du monde, pour le meilleur ou pour le pire. Il est donc intéressant de regarder, à côté des débats entre économistes, la façon dont leur pensée influence les hommes politiques qui décident des mesures. C'est une histoire surprenante, fascinante, parfois un peu désespérante, dont les modalités dépendent de la microsociologie dans chaque pays, des milieux dirigeants de l'administration et de la politique, avec un fort rôle de la presse. Par exemple, un économiste doit souvent, pour s'adresser au président de son pays, écrire un article dans un journal lu par des centaines de milliers de personnes. Les hommes politiques, généralistes ou spécialistes d'autre chose, ne connaissent souvent rien à l'économie. Par exemple, la première chose que M. Mitterrand médite, c'est « je n'y comprends rien ». Quand ces hommes politiques furent économistes, ils ne peuvent plus suivre la recherche une fois qu'ils sont au pouvoir. Et les conseillers sont d'une infinie variété. On a déjà noté des cas cruciaux en politique macroéconomique et monétaire internationale. Contentons-nous d'ajouter quelques anecdotes françaises qui illustrent certains phénomènes importants. Des conseillers du Premier ministre Raymond Barre, le plus savant jamais arrivé au pouvoir, lui proposent de faire un cycle politique, comme je l'indiquais. Il s'y refuse pour une raison morale. Il perd les élections. Un président de la République dénonce fortement le chômage comme le fléau numéro un. En public, on lui montre le soir, en privé, que telle mesure qu'il est sur le point de prendre créera 400 000 chômeurs de plus. La réponse est l'équivalent présidentiel de « bof ». Un Premier ministre, M. Bérégovoy, comprend remarquablement bien que la politique dite du Francfort n'est pas appropriée. Mais ce qui a le plus de succès en politique en France, c'est soit, étant à droite, de montrer qu'on a aussi un grand cœur en dénonçant la fracture sociale, soit, étant à gauche, de montrer qu'on sait être réaliste en étant monétariste. D'où une politique déflationniste, du chômage, la perte des élections, la fuite des amis et la faim. En 1983, les journalistes présentent la situation comme un dilemme entre la déflation ou rester dans le système monétaire européen. C'est faux. Il existe une troisième politique qui obéit aux traités européens et évite la déflation. Le président, dont j'ai noté tout à l'heure sa propre opinion sur sa connaissance, consulte une quinzaine de personnes d'avis opposés. Il choisit au hasard le dernier conseil entendu, assorti d'une métaphore rurale, le franc coulera comme une pierre dans un lac. En 1972, à un moment où le ministre des Finances assure qu'il connaît Keynes et où un de ses conseillers explique qu'il n'y a pas de relation entre l'inflation et la masse monétaire, celle-ci croît à un rythme de 30% l'an. Point n'est besoin d'être monétariste à tout craint pour prévoir ce qui arrive. L'inflation explose en France, elle s'établit à 6% au-dessus de celle de l'Allemagne et des États-Unis, et la réduction ultérieure de cet excès coûtera 2 millions d'années chômeurs. Une année chômeur, c'est une unité, ça veut dire un chômeur pendant un an. En janvier 1973, le même ministre vient de lire un article d'un économiste qui suggère, en même temps qu'un freinage monétaire, une baisse d'impôts à fin de relance. Il baisse un impôt particulier, la TVA, ce qui a l'effet automatique passager de baisser les prix. Ceux-ci, en effet, cessent de monter d'un mois au suivant. Le ministre annonce alors qu'il a mis fin à l'inflation qui commençait à énerver les Français. Et le gouvernement gagne de justesse les élections de début mars. Puis la hausse des prix reprend. Le cours de la hausse des prix reprend. La même personne, d'ailleurs, devenue président de la République, expliquera plus tard le chômage de la nouvelle grande crise par la démographie résultant de la guerre de 1914, oubliant qu'un travailleur est aussi un consommateur, ce qui, d'ailleurs, est vrai aussi en ce qui concerne le prétendu effet des immigrés sur le chômage. Je dois toutefois ajouter que les choses ont changé. Maintenant, les conseillers économiques les plus proches du pouvoir, en France et aux États-Unis, sont ceux que j'aurais recommandés si on me l'avait demandé. Il est toutefois possible qu'après un demi-siècle de tâtonnement en politique macroéconomique, on soit à peu près parvenu à comprendre ce qu'il faut faire dans ce domaine. La fin des grands débats, où souvent l'apparence scientifique n'était qu'une fine couche de peinture sur des préjugés idéologiques, en constitue peut-être un indice. Il n'y a plus de grands débats entre monétaristes, keynésiens, etc., comme il y avait il y a 15 ans. Les politiques microéconomiques, elles, variées, ne semblent pas soulever de difficultés scientifiques majeures. Le développement reste certes un défi pour une large partie du monde, mais je dois ajouter qu'il l'est notamment parce qu'il doit cesser d'être le destructeur de civilisation et de culture qu'il a été jusqu'à présent. Cela étant, les tâches majeures de la connaissance et de la politique économique actuelle se concentrent sur quelques grands problèmes. La justice distributive, comme disait John Stuart Mill il y a plus d'un siècle, la qualité des relations sociales, la nature du travail et la maîtrise autonome des désirs et des besoins. La compréhension de la question de la justice économique est sans doute la grande découverte de ces dernières années dans cette discipline. Reste la diffusion et l'application de ces résultats. Souvenons-nous qu'il s'écoule en général une génération entre une découverte économique et sa mise et son application. Le problème est la distribution des ressources de la société. Mais la valeur de ce que nous consommons provient à 97,5% du travail, directement ou indirectement par le capital. C'est dire que l'essentiel des ressources en valeur est constitué des ressources humaines, notamment des capacités de production, dont la rémunération est le salaire. Une certaine règle distributive classique attribue à chacun, comme on dit, la pleine propriété de lui-même. Mais les taux de salaire que chacun peut obtenir sont extrêmement inégaux, et avec cette pleine propriété de soi, ceux qui ne peuvent gagner que peu peuvent être dans la misère, même s'ils travaillent d'arrache-pied. Les autres solutions reviennent à ce que des personnes aient certains droits dans les capacités productives d'autres. On voudra cependant que ce système respecte les droits et libertés individuelles de base, ceux de la Déclaration de 1789, pour deux raisons. D'abord, c'est le début et la base de nos constitutions, donc on est dans l'illégalité si on ne les respecte pas. D'autre part, on pourra les souhaiter pour une raison morale, parce qu'ils constituent une liberté fondamentale des personnes. Cela restreint les possibilités de droit des personnes les unes sur les autres, mais ne les supprime pas et leur impose une forme particulière. On ne peut pas avoir le droit de détruire le capital que constitue l'autre, ce qui n'est pas de propriété, usus et abusus. On ne peut pas le détenir en esclavage. Et on ne peut pas choisir l'usage de ce capital, car les droits impliquent la liberté d'action. On ne peut pas non plus, en y regardant bien, taxer le travail, comme le fait l'impôt sur le revenu, car quand on prend à la lettre les droits de base, il faut que chacun doit avoir droit à tous les fruits de son action. Mais on peut avoir un certain droit à la valeur de la disponibilité des capacités productives d'autres personnes. Sans entrer dans le détail de cette théorie, notons que le résultat prend nécessairement une forme du type. Les revenus que chaque personne peut gagner pendant un jour et demi par semaine sont également redistribués, et par ailleurs, chacun est libre de travailler autant qu'il le veut sans autre impôt sur son salaire. J'ai dit un jour et demi, mais cette durée peut être différente. Par exemple, si les redistributions actuelles au niveau national étaient effectuées selon ce principe, cette durée serait entre 1 et 2 jours par semaine selon les pays, des États-Unis aux pays scandinaves qui constituent les extrémités. Cela efface les différences de productivité et de salaire individuel pour cette durée d'égalisation, mais les laisse pour le reste où il y a pleine propriété de soi. C'est pour ce travail d'égalisation, à travail égal, salaire égal, ou de chacun également en travail, à chacun également en monnaie, ou encore de chacun selon ses capacités, à chacun également. C'est-à-dire que les personnes dont les taux de salaire sont supérieurs à la moyenne cèdent en proportion de cet écart, et celles à un taux moindre que la moyenne reçoivent dans la même proportion. Puisque le travail effectif n'est ni taxé ni subventionné, cette redistribution est efficace et ne crée pas d'effet de désincitation, source de gaspillage social. Par ailleurs, la durée d'égalisation que j'ai décrite représente le degré d'égalisation ou de solidarité ou de communauté économique et, je vais dire pourquoi bientôt, de réciprocité existant dans la société. Il serait nul s'il y avait pleine propriété de soi. Ce système que je viens de décrire, réalise la fonction de distribution de l'État et les autres dépenses publiques doivent être financées par des impôts correspondant aux bénéfices que chacun en retire, comme des prix représentant des achats payés avec les revenus distribués au mieux par le système décrit. Enfin, ce système distributif est identique à ce qui se passerait si chacun d'entre nous cédait à chaque autre le produit de la même petite quantité de son travail, ou que chacun ait droit au produit de la même quantité de travail de chaque autre. Autrement dit, c'est la justice comme réciprocité équitable. Cette structure réciprocitaire de la justice est de nature à favoriser sa réalisation plus ou moins volontaire de la part des payeurs, plutôt que seulement contrainte. En fait, le terme réciprocité est plus couramment utilisé pour désigner un ensemble de dons, c'est-à-dire de transferts volontaires, reliés par les motivations des participants. Le cas le plus élémentaire est le don suivi d'un contre-don. Le don pur peut même être considéré comme le cas limite où le contre-don se réduit à zéro. Ces transferts par don ou réciprocité s'opposent tant aux transferts par force, comme dans nos relations avec l'État, aux échanges au sens strict, c'est-à-dire marchand, où les transferts sont mutuellement conditionnels. Ces derniers disent « je te cède ceci si tu me cèdes cela », ce qui est un genre de chantage, alors que la réciprocité est « puisque tu m'as donné ceci, je te donne cela ». Les dons et réciprocités peuvent ainsi s'affranchir tant de la coercition que de l'égoïsme des échanges marchands et réaliser des transferts de bien ou de travail fondée sur des relations, attitudes et sentiments de qualité. De fait, comme on le sait, les dons et les réciprocités sont aussi souvent suscités par des pressions sociales et des normes pesantes, mais il n'y a pas nécessairement que cela. Or, la bonne société est faite de bonnes relations et non seulement d'échanges profitables, d'actes justes et non seulement efficaces, d'attitudes dignes et non seulement habiles, de personnes bonnes et non seulement de consommateurs satisfaits. Favoriser le champ des relations réciprocitaires doit donc être un but important des politiques d'éducation et de structure des institutions. Cela doit notamment affecter les relations du travail. Mais la nature de celui-ci, qui occupe tant de notre temps, est aussi un facteur essentiel de la bonne économie. Certaines personnes voient la retraite comme un soulagement, d'autres comme une calamité, ou bien elles continuent à travailler sans être payées pour cela. Une inégalité fondamentale de notre société oppose les personnes pour qui le travail est d'abord pénible et celles pour qui c'est une possibilité de réalisation de soi, de création, de responsabilité désirée, voire de joie. Une politique essentielle consiste donc à favoriser la meilleure évolution de cette question par les politiques du temps et de l'organisation du travail, de la technologie et de l'enseignement. Enfin, l'économie est tirée par les besoins et, quand ceux-ci sont satisfaits, par les désirs. Mais les désirs de biens économiques eux-mêmes viennent largement des hasards des rencontres, de la famille, de la publicité ou de la mode. Ils suscitent l'insatisfaction et leur satisfaction fait place à d'autres désirs insatisfaits, comme une roue tournant sans fin. Est-ce un moteur rationnel ou raisonnable pour le monde? Si l'on en doute et si l'on veut respecter la liberté des personnes, la solution ne peut être que la diffusion de l'enseignement de la possibilité pour chacun de maîtriser la naissance de ses propres désirs et des méthodes pour y parvenir. Comme disait Descartes, changer mes désirs plutôt que le monde, en suivant en cela les stoïciens et comme le disent aussi les bouddhistes. C'est dire que l'économie devrait in fine être régulée par plus de sagesse plutôt que ce que par les orientaux appellent le singe fou de l'esprit. Une conséquence devrait être que l'économie perde le rôle central, dominant et obsessionnel qui est le sien dans le monde moderne, au profit d'activités intrinsèquement plus riches, intéressantes et humaines. Autrement dit, la bourse ou la vie, il faut choisir.
Merci beaucoup, monsieur le professeur. Et maintenant, place au débat. Alors, je vois une question en haut. Le micro, s'il vous plaît.
Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. On vous a entendu critiquer les ministres successifs qui se sont succédés dans les différents ministères. Vous avez même été jusqu'à dire que les conseillers économiques actuellement proches du pouvoir sont ceux que vous auriez conseillés si on vous avait demandé de le faire. Alors j'ai envie de vous poser une question directe. Qu'auriez-vous fait de la fameuse cagnotte, qui n'en est pas une? Et ne trouvez pas que c'est une hypocrisie de dire qu'on baisse la TVA de 1 point alors que bien des entreprises ne répercuteront pas la baisse comme ils n'ont pas répercuté la hausse de 18,6 à 26?
Bon, si je veux improviser une réponse, je dois dire que ma réaction devant cette question dite de cagnotte a été du côté de ceux qui disaient aller fortement dans la direction de baisser les impôts. Voilà, je peux dire que cette chose-là, étant bien entendu que utiliser une partie pour baisser la dette publique est également quelque chose qui a du sens.
Question à droite en bas.
On connaît bien le caractère artificiel à court terme des fluctuations boursières. Mais est-ce que vous ne pensez pas pour justement suivre pour suivre une meilleure redistribution, est-ce que vous ne pensez pas qu'il ne faudrait pas la rendre automatique en obligeant finalement dans les entreprises ceux qui y participent d'avoir les actions de l'entreprise?
Bon, c'est un sujet, celui de la participation des employés des entreprises au capital de l'entreprise, qui a une très longue histoire. En France même, et pour commencer dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec quelques tentatives auparavant, on sait aussi que traditionnellement les syndicats s'opposaient à cela pour distinguer les rôles en France. Mais en ce qui me concerne, j'ai toujours pensé qu'une participation des salariés au syndicat des entreprises, si c'est bien fait, et non seulement au capital des entreprises, mais par là, de façon effective, au pouvoir décisionnel au plus haut niveau des entreprises, était quelque chose qui était extrêmement favorable.
Bonsoir. Je vais sans doute poser une question un peu naïve, mais je suis un béotien en économie. Mais de toute façon, j'ambitionne toujours de ressortir d'ici plus intelligent que je n'y suis entré. Donc, je pose ma question qui a trait au problème des retraites. On dit que les retraites ne pourront plus ou seront plus difficilement assurées du fait que dans le système de répartition, il n'y aura plus assez d'actifs pour assurer le maintien du niveau des retraites. Cependant, si le contribuable versait le complément nécessaire pour assurer ce maintien des retraites, cela aboutirait à une redistribution d'argent, donc à une augmentation de la consommation par utilisation de cet argent, donc à une augmentation de l'activité, donc à une baisse, à une augmentation du nombre d'actifs. Et donc, on arriverait théoriquement à résoudre le problème. Alors, ce que je dis là est tellement beau que c'est sûrement pas vrai. Et donc, je vous demande où est l'erreur.
Tout d'abord, il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans ce que vous dites. Vous indiquez que le contribuable verse quoi ? Verse de l'argent à l'État. On augmente les impôts qui sont distribués. Bon, il y a toute une série de points dans votre raisonnement qu'il faut regarder un par un. Si quelqu'un verserait par impôt de l'argent à l'État, et cet État le verserait aux retraités, alors il faudrait voir si cet impôt qui est versé ne fait pas lui-même diminuer des dépenses du contribuable. Si ça diminue des dépenses du contribuable, ça peut compenser les dépenses que le retraité effectuera à partir de ce qu'il en reçoit. Donc tout dépend des diverses propensions à dépenser du contribuable et du retraité. On peut penser que le retraité, peut-être a-t-il une propension à consommer supérieure. En tout cas, vous voyez que pour que votre question marche, il faut d'abord regarder empiriquement ces deux paramètres. Deuxièmement, il y a la question de l'activité ou du plein emploi. Vous avez supposé que s'il y avait un effet de relance, d'augmentation de la demande effectuée par ce que vous proposez, ceci allait augmenter l'emploi, donc augmenter le revenu national et finalement résoudre le problème. Toutefois, la plupart des prévisions qui sont faites en matière de retraite à long terme pratiquement suppose le plein emploi, suppose qu'on a résolu ce problème du chômage profond, ou bien qu'il reste des chômeurs que l'on ne peut pas supprimer éventuellement parce qu'on en a besoin pour que l'inflation n'explose pas, selon ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est un autre point où il faut regarder l'exactitude, la façon spécifique dont marche ce que vous proposez. Donc voilà, la question des retraites pose aussi toute une série d'autres questions. Votre question n'était pas l'ensemble du problème des retraites, mais simplement de vouloir tester une proposition qui a du sens en regardant le détail.
Moi, je voudrais savoir si je vous ai bien compris, l'Europe paie la dette des États-Unis, la dette publique des États-Unis qui est énorme. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'Europe ne fasse pas ça? Est-ce que ça l'entraînerait dans un nouveau cycle d'inflation avec un chômage moindre?
Vous dire l'Europe paye la dette des États-Unis, mais ça c'est un point que je ne vois pas très bien. Si des gens utilisent des dollars, ça se manifeste comme une dette des États-Unis. Et je veux dire, c'est quelque chose qui est dans l'équilibre des marchés financiers. Donc les États-Unis, de par leur situation, ont en effet une dette payée de cette façon, mais c'est l'ensemble du système des marchés qui fonctionne de cette façon. Et je ne sais pas trop quelle conclusion en tirer. Si on veut laisser fonctionner ce système, il n'y a pas grand-chose à y faire. Et de fait, on n'y fera pas grand-chose.
Bonjour.
Monsieur.
Est-ce que les luttes sociales dans les pays industrialisés sont un moteur ou un frein à l'évolution de la justice économique dans le monde ?
D'abord, j'ai l'impression que les luttes sociales dans les pays industrialisés se soucient, à des petites exceptions près, sans doute négligeables au plan statistique et global, peu de la redistribution dans le monde, c'est-à-dire par exemple à l'écart des pays qui sont les plus pauvres. Alors est-ce qu'elles sont un moteur et un frein ? Il faudrait voir de quelle façon est-ce qu'il peut y avoir une redistribution internationale. Ce qu'il faut dire, c'est que pour l'instant, il y a extrêmement peu de redistribution internationale passant par le secteur public, en proportion. En volume, ça peut être quelque chose d'important, mais en proportion de ce qu'il faudrait faire si on voulait avoir une certaine diminution d'inégalités qui sont de l'ordre de grandeur de 1 à 10. Vous vous souvenez que de 1 à 10, c'était le revenu national sur un siècle de la France, et entre la France et un pays particulièrement pauvre, de même, les revenus sont de l'ordre de grandeur, par tête, sont de l'ordre de grandeur de 1 à 10. Et donc, je ne vois pas pratiquement que cela puisse passer par une redistribution publique. Il peut y avoir des aides qui vont favoriser des développements technologiques ou des choses comme ça. Et j'ai l'impression que c'est assez indépendant de ce qui se passe à l'intérieur des pays développés, notamment sur le plan de la distribution. Les développements ne vont pouvoir venir que par un développement économique largement industriel des pays qui en ont encore peu, et petit à petit ça vient de façon avec succès dans certains pays.
Excusez-moi.
Oui, non, c'est pas moi.
Madame, au milieu en haut.
Oui, bonjour. Je voulais vous demander ce que vous pensiez de la taxe sur les transactions financières, ou taxe Tobin, et savoir si elle sera applicable, enfin, ou du moins comme le Conseil européen a.
D'abord, il y a quelque chose d'extrêmement curieux dans cette taxe Tobin. C'est que James Tobin l'avait proposée pour autre chose que les raisons pour lesquelles leurs promoteurs et les associations organisées pour promouvoir cette taxe le font actuellement. Dans l'idée, James Tobin voyait essentiellement les effets des mouvements de capitaux internationaux sur les taux de change entre les pays. Actuellement, il pouvait y avoir des spéculations monétaires quand on croyait qu'une monnaie allait baisser, comme quand une monnaie baisse, on peut gagner en une nuit quelques points, et ça équivaut à peut-être à un taux d'intérêt de milliers de fois ou de millions de fois ramené à l'an. Ceci incite la spéculation, et quand les mouvements de capitaux ont mobilisé des masses extrêmement fortes avec des moyens de transaction extrêmement faciles, ça a mené à des fluctuations qui ont mis fin finalement au système de Bretton Woods par le mécanisme que j'ai indiqué tout à l'heure. Et Tobbins voyait les défauts de cela, puisque les différences et les fluctuations fortes de taux de change ont des effets sur l'économie réelle, sur le prix des importations, sur les possibilités d'exportation, et donc ces mouvements avaient des effets sur l'économie réelle extrêmement négatifs. James Tobin a voulu freiner ces mouvements de capitaux spéculatifs sur les monnaies, on peut spéculer sur bien des choses, spéculatifs sur les monnaies, et pour ça, il a proposé de mettre du sable dans les rouages du système, comme il a dit, c'est-à-dire une taxe sur les transactions. Actuellement, la taxe sur les transactions est donc revenue quelque chose qui est proposé, et ma première impression, c'est que ça n'a guère de chance d'être accepté. Il faudrait que ça soit accepté par tous les États, pas par un seul, qu'il y ait une entente et que les pouvoirs publics qui fassent cela soient suffisamment indépendants de l'ensemble du secteur financier qui ne veulent pas de cette taxe pour toutes les raisons possibles. Et je pense que ce n'est pas le cas. Donc je suis très pessimiste sur la possibilité que ça puisse être accepté, indépendamment de sa qualité.
Je ne suis pas très d'accord avec le fait que l'État, il faut crier toujours sur l'État, parce que l'État, c'est un agent économique au même titre que les ménages, les ENF, etc., etc. Et donc, moi, je pense que l'économie n'est pas tirée par les besoins, comme pensent les libéraux et compagnie, mais l'État est tiré par les décisions, enfin, grâce aux décisions politiques prises par l'État, justement. C'est l'exemple de la crise de 82 et 83 qui a été la conséquence, d'après moi, et ce que j'ai démontré à l'Institut européen des affaires, de la nationalisation du système bancaire français. C'est une décision politique qui a créé ça, avec les conséquences contre la gauche. Moi, je pense quand même que on ne peut pas crier sur l'État et se servir de l'État au moment où on n'a pas plus de fric dans la caisse. Vous comprenez ?
Et quelle est votre question ?
Quelle est la question ?
Ma question est très simple. Qu'est-ce que vous en pensez, cette réflexion ?
Mais attendez. Vous, j'ai l'impression que vous supposez que je critique trop l'État, c'est ça ? Je n'ai pas l'impression que ça soit apparu. Ce que j'ai dit, c'est, dans tout le début de la présentation, c'est de montrer... de partir du fait que les marchés sont un système assez fascinant, pour deux raisons. D'une part, historiquement, regardez ce que ça a fait au monde depuis deux siècles, je ne dis pas que c'est bien ou mauvais, mais ça c'est extraordinaire, ce que ça a fait est extraordinaire. Ou bien regardez dans le détail comment des économies qui étaient complètement détruites par les guerres, par le système des marchés, ont récupéré. Il y a des tas de façons de voir. Par ailleurs, c'est un système aussi fascinant sur le plan théorique, et notamment parce qu'on comprend en gros, pas tout dans le détail, on fait des progrès tous les jours, comment ça marche, et de comprendre cette interdépendance générale par le système des prix. Par conséquent, comme on a une certaine connaissance de ce mécanisme, qui, s'il était parfait, on a une théorie du marché parfait, serait efficace, ne serait pas juste. La perfection n'explique pas la justice, mais serait au moins efficace et aurait bien des vertus. Ceci pour expliquer le rôle. On n'a pas de théorie semblable pour l'État. On n'a pas de théorie de l'État parfait. On sait que l'État est nécessairement imparfait, mais que serait l'État parfait, on ne sait pas très bien. Donc, pour expliquer le rôle économique de l'État, on a pris intellectuellement la chose suivante. On a pris la théorie des marchés parfaits. On a regardé ce qui existait dans le monde et on a vu que il y avait des choses qui ne marchaient pas. D'abord, ces marchés, de fait, ne vérifiaient pas la théorie pour une série de raisons que j'ai indiquées. Et puis, il y avait aussi autre chose qui était en dehors du domaine des marchés et dont pouvait s'occuper soit l'État, soit d'autres domaines de la société qui ne relèvent pas de l'État, comme ce qui va relever des sentiments, des relations sociales, et ainsi de suite. En tout cas, pour l'État, ceci a permis, dans le cadre de ce qu'on appelle l'économie publique, d'avoir des théories qui donnent une série de fonctions et une série de rôles qui sont attribués à l'État. Donc c'est essentiellement ça que j'ai dit. Je n'ai pas dit que l'État était mauvais. Je suis sûr que l'État fait parfois de mauvaises choses. Je suis sûr que parfois l'État fait de bonnes choses. Ce que j'essaye de savoir, ce qui m'intéresse, puisque les économistes ont un certain poids par ses conseillers, et malgré tout, et comme je l'ai dit, pour le meilleur et pour le pire, parfois pour le pire comme on l'a vu, mais peut-être de moins en moins maintenant, ce que j'essaye de savoir, c'est de savoir ce que doit faire l'État de façon normative pour essayer de le transmettre aux dirigeants à travers toutes les difficultés dont je vous ai fait part par les anecdotes que j'ai rappelées.
Bonsoir, monsieur le professeur. Je ne pense pas que les États font quelque chose. Bien au contraire, il me semble qu'ils ont totalement abdiqué devant les charognards de la finance. L'homme est à genoux, il est devenu une simple marchandise. Les marchands veulent toujours plus après avoir réussi à précariser l'emploi. Des hommes politiques censés détenir le pouvoir se déclarent à présent impuissants et livrent la société aux lois dites du marché. Au deuxième millénaire, des sportifs ne représentent plus leur pays, mais les marques des multinationales. Ils sont même vendus, achetés, revendus comme une simple marchandise. Aussi, pour trouver du travail, on conseille aux chercheurs d'emploi de bien se vendre. Ainsi, sous la pression des marchands, l'homme a perdu son honneur, comme vous l'avez dit au début de votre exposé. Il a perdu également sa dignité. La générosité a laissé place à la cupidité. La fraternité, la solidarité, la convivialité professionnelle a disparu. L'agressivité et le harcèlement sexuel des femmes et moral des hommes s'amplifient dans les entreprises. Bref, l'international de l'exploitation et de la domination est sur le point de triompher, sous l'œil passif ou complice des gouvernements. J'aimerais avoir l'opinion de l'économiste éminent que vous êtes sur ce qu'il faut faire pour que l'homme se relève et se mette debout face au désastre économique actuel.
Écoutez, tout d'abord, j'ai utilisé des termes peut-être un peu différents des vôtres, mais je crois que dans l'esprit, une série des choses que j'ai dites est assez semblable à ce que vous dites. Quant à savoir ce qu'il faut y faire, je dirais même qu'il y a d'autres questions, même que vous n'avez pas soulevées. Par exemple, vous avez soulevé le problème des effets humains et moraux des marchés. Vous n'avez pas soulevé le problème de la justice distributive, vous auriez pu le soulever. Cela dit, donc je pense qu'il y a une série de choses à faire sur ces questions. Tout ne relève pas de la politique économique. Tout ne relève pas de ce qu'on appelle la science économique et la théorie économique au sens strict, mais j'ai dit moi-même qu'on devait certainement dépasser cela. Sur un point qui est la justice de la distribution, je pense, comme je vous l'ai dit, qu'on a fait récemment des progrès tout à fait considérables et que peut-être par la voie de la politique, ça pourra être appliqué d'ici, entre maintenant et une génération. Sur les plans des phénomènes de société que vous indiquez, j'ai également des choses à dire. J'ai écrit des livres sur l'économie de la réciprocité qui sont des propositions de systèmes économiques alternatifs, et il m'est un peu difficile de décrire ça dans le détail, mais je pense que par l'ensemble de la politique des pays, du secteur public, l'ensemble des opinions, l'ensemble d'une prise de conscience, l'ensemble des diverses organisations de citoyens, on peut morceau par morceau faire quelque chose sur les divers points que vous indiquez. Mais c'est un problème vraiment global de la société, et en tout cas pas seulement un problème de politique économique comme ceux que j'ai décrits quand j'ai été précis dans ce que j'indiquais.
Merci. Monsieur en haut à gauche.
Oui, bonsoir. Il y a quelque chose, vous avez terminé en souhaitant que, comme Keynes, un peu finalement l'économie se retire et retrouve sa seconde place, si on peut dire, hein. Lui, il avait peut-être dit ça plus par esprit de dandy que véritablement par un esprit humaniste. Mais ceci dit, ma question, elle est un peu dans le sens des remarques précédentes, à savoir, j'ai pas compris, pas réussi à résoudre le paradoxe dans ce que vous avez dit. Vous avez dit que les conseillers économiques d'aujourd'hui, donc des gens au pouvoir, sont ceux que vous auriez vous-même suggéré. Or, un peu comme l'a constaté la personne précédente, on est en droit de penser que les conseillers économiques d'aujourd'hui vont plus dans la direction de toujours plus d'ouverture pour les marchés, toujours plus d'objets à marchander, si on peut dire. On a eu récemment la manifestation des professeurs enseignants au niveau national dans nos rues pour défendre une éducation publique nationale de qualité, refuser une entrée du marché au niveau de l'éducation. De la même façon, on a constaté des luttes toujours plus difficiles à mener pour soutenir également au niveau de nos radios culturelles une culture de qualité. Et donc, comment expliquez-vous le fait que vous, malgré que vous vouliez que l'économie retourne au second plan et laisse place à plus d'humanisme, que quand même les conseillers économiques d'aujourd'hui vous satisfassent et que vous donnent leur approbation?
Bon, alors c'est une question qui, en effet, me conduit à préciser ce que j'ai voulu dire. Car, en effet, j'ai parlé de plusieurs choses successivement, mais il peut y avoir un peu un télescopage. Quand j'ai dit que si on m'avait demandé mon avis sur quel conseiller économique prendre en France et aux États-Unis actuellement et dans quelques autres pays aussi, j'aurais conseillé ceux qui ont été pris, je visais leur capacité pour la macroéconomie ou peut-être pour la microéconomie, mais pour les politiques économiques au sens strict du terme. Et ces conseillers économiques sont connus comme des économistes et ils ne sont pas connus pour, par exemple, un activisme humaniste. Ils peuvent être humanistes en addition, mais ça, c'est leur domaine privé et ça n'intervient pas dans leurs conseils. Donc, quand j'ai parlé des conseils, c'était de façon très spécifique pour les conseils économiques au sens strict. Je dois ajouter que ces personnes ont les opinions individuelles qui ne sont pas nécessairement le tout marché, à vrai dire, tels qu'ils sont. Ils correspondent au gouvernement. Par exemple, actuellement, le gouvernement français est le gouvernement socialiste que vous connaissez, et les conseillers économiques auxquels je fais allusion sont exactement dans la ligne de ce gouvernement, avec le compromis, une position que je ne vous décris pas, parce que vous vivez dans ce pays et dans les médias qu'ils secrètent, et donc vous savez tout cela. Donc ce ne sont pas, ces conseillers économiques ne sont pas nécessairement du tout marché. Et aux États-Unis actuellement aussi, ces conseillers économiques sont, je dirais, on les classerait du centre-gauche, quelque chose comme ça. Mais ils ne sont pas du tout hostiles à l'ensemble des marchés, mais ils voient certainement quelques failles. Il faut ajouter, si je dois être franc, si je veux parler de, je pense à des personnes spécifiques, et je dois aussi dire quelque chose qui va dans votre sens, c'est que cette personne qui est secrétaire d'État aux États-Unis actuellement et qui est assez bonne sur le plan des conseils macroéconomiques, quand cette personne était à la Banque mondiale, elle a fait des impairs exactement dans le sens que vous disiez, que vous avez dit, en proposant de mettre le système de protection de l'environnement dans le système de marché sur des points où ce n'était vraiment pas approprié. Donc vous avez certainement raison.
Une dernière question à droite. Avant de libérer l'ensuite,
vous avez dit que vous avez enseigné aux États-Unis et en France. Comment se fait-il que la science économique suscite un très grand intérêt aux États-Unis et en Grande-Bretagne et relativement peu d'intérêt en France? Autrement dit, ma question, c'est comment développer l'enseignement de l'économie en France?
D'abord, je ne suis pas... Il faudrait voir si vraiment la science économique suscite peu d'intérêt en France. Pardon ? Oui. Ça, c'est une réponse à la personne qui en a parlé. Oui. Attendez, alors là, j'ai deux questions qui vont l'une contre l'autre, un peu. En tout cas, il me semble que j'ai quelqu'un qui me dit, qui se plaint que l'économie ne suscite pas assez d'intérêt, et quelqu'un d'autre qui se plaint de ce qu'au niveau des pouvoirs publics, ça suscite trop d'intérêt. Alors, je pense que c'est très intéressant de regarder dans la société française, mais il faudrait regarder les divers parties de la société française, quelle est la position à l'égard de la pensée économique. Je vois bien des parties de la société française qui ont une position vis-à-vis de la réflexion économique au sens le plus strict, de la science économique au sens strict, sans aller vers les extensions humanistes dont on a parlé, qui sont tout à fait semblables à ce qu'il y a aux États-Unis et en Angleterre. De même que je vois aux États-Unis et en Angleterre des extensions humanistes aussi, comme vous savez, semblables à celles dont vous avez parlé, et parfois très puissantes. Toutefois, il est sans doute vrai que, notamment si je regarde ce qui se passait il y a quelques dizaines d'années, il y avait une culture économique plus grande en Angleterre et aux États-Unis qu'il y avait sur le continent européen. Il y avait aussi des contreparties, par exemple. Actuellement, bien des gens s'intéressent à la question de la justice distributive en Angleterre et aux États-Unis, mais il y a une trentaine d'années, quand un économiste faisait une conférence sur la justice économique aux États-Unis devant un public d'économistes professionnels et même de professeurs d'économie, c'était un four, il ne se faisait pas entendre. Léon Valras, que j'ai cité, a dit « la justice est une idée gréco-latine et française ». Alors, je suis toujours gêné de dire ça, surtout que d'habitude je parle dans des milieux internationaux, ça a l'air extrêmement chauvin, mais il y avait quelque chose dans cela quant à l'intérêt général de la société. Mais ceci, il faut le dire, change avec le temps, et la situation aux États-Unis et en Angleterre a évolué, et en France elle évolue, et surtout ça dépend des diverses parties de la société. C'est un peu ce que je peux dire, mais c'est un sujet extrêmement important et intéressant.
Merci beaucoup, Serge Christophe Colm. Merci.